Alors, c'est fait, hein? Hockey Canada ont dévoilé leur formation pour les Jeux olympiques de Pyeongchang, là, qui vont se tenir en Corée du Sud dans les prochaines semaines. Et puis là, ben, qu'est-ce que tu veux? Le Canada a gagné la médaille d'or lors des deux derniers Jeux, à Vancouver en 2010, puis à Sochi en 2014. Puis là, ben, on va aller voir Danny Dubé, puis lui demander, mon cher Danny, tu penses-tu qu'avec la formation qu'ils ont rendue publique ce matin, penses-tu qu'avec avec ces joueurs-là, on peut aspirer aux grands honneurs et à une autre médaille d'or, mon cher Danny?
Écoute, ce serait de la pensée magique. Bernard, bonjour.
Salut. Content, toi aussi, bonne année.
Et je pense que ce serait de la pensée magique de croire que le Canada peut remporter, dans l'ère moderne, là, une médaille d'or avec cette formation-là. Je leur souhaite. Là, et puis moi, j'ai passé à travers tout le processus du temps du hockey amateur, la dernière formation amateur, là, même s'il y avait des anciens professionnels, la dernière formation amateur, c'était à Lillehammer en 94.
Et t'étais là comme coach.
C'est ça, j'ai vécu tout le processus pour bâtir l'équipe, à quel point c'est difficile d'attirer les joueurs. Tout le monde longue vers le hockey professionnel. Il y a des gars qui ont des ententes contractuelles. Là, en plus, la Ligue nationale qui empêche ses joueurs sous contrat de faire partie de l'équipe nationale. Donc, c'est sûr que ça va diluer énormément le produit et la qualité de l'équipe.
Mais est-ce que quand tu regardes les joueurs, là, y a-tu moyen, toi qui en as qui a participé à la construction d'une équipe olympique, y a-tu moyen avec ces joueurs-là, tu penses, d'être compétitif?
Bien, quand tu regardes l'équipe individuellement, c'est sûr que ce que tu te dis, c'est qu'il faut qu'on soit la meilleure équipe, parce qu'individuellement, on ne sera pas à la hauteur de certaines autres formations, certains autres pays.
Est-ce que ça te fatigue, Danny? Ça te fatigue-tu que la Ligue nationale, finalement, ait refusé d'envoyer des joueurs participer aux Jeux olympiques? Est-ce que tu faisais partie de ceux qui auraient souhaité? Oui.
Écoute, c'était correct. La formule Dream Team, c'est correct. Mais en même temps, la vocation du programme de Hockey Canada, c'était pas ça initialement. Là.
C'était pas fait pour des professionnels.
C'était Father Bauer, quand il a fondé le programme. Il a fondé le programme pour justement s'assurer que le Canada ait une équipe compétitive dans les compétitions internationales. C'était une plateforme qui permettait de développer et des joueurs et des entraîneurs et qui servait de laboratoire pour le développement du hockey en général. Alors, moi, j'ai eu le privilège de faire partie de ça. Ce qui est triste aujourd'hui, c'est que ça continue chez les juniors, bon. Mais aussitôt qu'on passe cette étape du junior, il y a un vide. Avant, il y avait une continuité. Là, il y a un vide. Le vide est comblé par les professionnels. Puis les professionnels, évidemment, on prend ceux qui ont participé au championnat du monde parce que c'est l'élite, c'est la crème de la crème, là. Puis ça, tout ça, c'est correct. Mais on a perdu le côté... plus de l'engagement social. On essaie de le récupérer différemment. Puis les gens qui sont en place, ça n'a rien à voir avec eux. Là. Eux, ils vivent avec une situation qui n'est pas sous leur contrôle.
Mais est-ce qu'on est pris... Est-ce que, tu sais, il y a une raison pour laquelle on a décidé à un moment donné qu'on allait envoyer les meilleurs, là, l'équipe d'étoiles, dans le fond, des meilleurs joueurs canadiens. Puis ça a donné des bons résultats. On a gagné la médaille d'or. Mais la raison pour laquelle on le fait, c'est parce que les autres pays aussi mettaient dans l'alignement des joueurs professionnels, non?
Non, l'idée c'était vraiment d'utiliser la fenêtre olympique pour faire rayonner le hockey à travers la planète. C'était ça la stratégie.
La logique, c'était ça.
La logique, c'était simplement ça. Comme le basket le fait, Bernard.
C'est vrai.
Aujourd'hui, là, tu regardes le basketball, c'est planétaire.
Alors, à l'époque. Alors, dis-moi pourquoi cette logique-là, si elle était vraie, était bonne pour les Jeux olympiques de Vancouver et les Jeux olympiques de Sochi, pourquoi elle ne s'est pas appliquée cette fois-ci?
Parce que c'est mercantile, c'est carrément pécunier. La Ligue nationale aurait probablement consenti à envoyer ses joueurs si la compensation financière avait été plus importante.
Ça, c'est les propriétaires qui demandaient ça?
Oui.
Parce que quoi, si tu envoies tes joueurs professionnels, ça veut dire que tu es obligé d'enlever des parties dans le calendrier ou quoi?
Bien, pas nécessairement, mais c'est l'utilisation des images, c'est comment la Ligue nationale peut réutiliser les différentes plateformes web, etc., pour faire la promotion du hockey. Et ça, le CIO n'a jamais voulu là, compenser la Ligue nationale dans cet ordre d'idée-là. Ensuite, il y a tout l'aspect des assurances. Alors, il y a un tas de ramifications financières qui ont fait qu'on a dit, écoute, en plus, là, dans le contexte, en Corée, c'est pas nécessairement un marché intéressant pour nous. On va pas jouer au hockey en Corée ou on va pas aller en Corée dans les années à venir. Par contre, en Chine,
ben oui.
Là, je sais pas si les gens ont vu passer ça, mais je vais quand même le partager. Là, tout à coup, le président du hockey, de la Fédération de hockey international, M. Fassel, tout à coup a changé son fusil d'épaule et dit « ça prend les équipes. Ça prend le hockey de la Ligue nationale aux Olympiques. Donc, on va tout faire pour s'entendre avec la Ligue nationale pour la Chine. » Évidemment, écoute, la Chine, c'est un marché gigantesque.
Parce que les prochains Olympiques d'hiver sont en Chine, hein? C'est bien
exactement.
Ça? Oui, voilà.
Alors tout est monétaire, tout est stratégique. Le hockey...
c'est une business, hein?
Sportif,
c'est une business.
Ben oui,
on
ben
le dit
oui.
tout le temps, mais on a la preuve.
Et l'aspect sportif en a pris pour son rhume. Les gens qui sont là maintenant doivent composer avec une situation dans laquelle ils n'ont pas vraiment de contrôle. Tu peux enlever tous les joueurs. T'sais, écoute, là, quand même, là, les joueurs professionnels, là, tu parles de 700 joueurs de la Ligue nationale, tu parles d'un autre, mettons, 1000 quelques joueurs de Ligue américaine et un autre. Tu sais, ça n'arrête pas, là. La Ligue américaine, ensuite la Ligue internationale ou l'espèce de Ligue de la côte Est. Si tu fais l'ensemble de l'œuvre, là, ces joueurs-là qui sont sous contrat, tu as peut-être actuellement, je sais pas moi, 2000, presque 3000 joueurs qui ont des contrats professionnels qui sont un peu coincés dans ces contrats-là avec lesquels ils ne peuvent pas nécessairement négocier avec l'équipe Canada pour aller dans les compétitions internationales. Alors, à l'intérieur de ces 3000 contrats-là, il y a peut-être, je sais pas, il y a peut-être 500 joueurs là, qui ont un flottement, comme je vous donne l'exemple d'Éric Gilina, qui est avec le Rocket, mais qui a un contrat, lui, de Ligue américaine exclusivement. Il n'y a pas un contrat de Ligue nationale. Alors, la technicalité, c'est que lui, il pourrait se joindre à l'équipe olympique là, si on faisait appel à ses services, ce qui n'a pas été le cas. Mais bon, lui, il aurait pu considérer cette alternative parce que son contrat n'est pas un contrat ni de Ligue nationale, ni d'affiliation à la Ligue nationale, mais simplement une affiliation d'une équipe professionnelle.
En tout cas,
je tiens à faire la distinction parce que tout à l'heure, j'ai dit des chiffres, mais ça se peut que ce soit un petit peu changeant là, selon le nombre de contrats, ce qu'on appelle des contrats d'agents libres ou des joueurs qui n'ont pas d'affiliation avec des équipes professionnelles.
Chose certaine, c'est le spectacle qui va en souffrir, Danny,
ouais,
ça c'est bien clair.
Quand on tu sais, depuis l'arrivée des professionnels dans cette, tu sais, on parle de, bon, nous on a fait 94, c'était les derniers. Ensuite là, bon, on se souvient, bon, Nagano, puis on a terminé quatrième, c'était toute l'affaire des fusillades. Après ça là, whoop, là, il y a eu quand même 3 médailles. Tu sais, il y a eu des médailles d'or, il y a eu plusieurs compétitions internationales où le Canada a commencé à être vraiment, avec les joueurs professionnels, à être dominant là. Mais il reste que le mandat premier de cette compétition-là, c'est vraiment de permettre aux hockey amateurs de continuer à se développer. Puis dans les autres pays, pourquoi je dis que ça va être plus difficile pour le Canada, c'est que dans les autres pays, il y a des ligues professionnelles. Ces ligues professionnelles-là, ils arrêtent leurs activités, ils permettent à leurs joueurs d'aller aux Olympiques. Voilà. Donc, c'est sûr que ça va rehausser le calibre de certains pays comme la Finlande, la Suède, évidemment, la Russie, etc. Donc, mais il reste que c'est un tournoi de 2 semaines, hein? Puis
oui.
Il faut réussir à créer la magie. Il y a beaucoup de caractère au sein de l'équipe canadienne. Moi, il y a des sélections que j'aime beaucoup. Moi, je pense que Maxime Lapierre, l'ancien du Canadien, c'est un joueur qui va avoir du succès. Il y en a déjà en Suisse, là.
Danny.
Je pense qu'il va continuer.
Faut s'arrêter. Merci. C'est très apprécié que tu aies été là. Puis je te re-souhaite encore une fois une bonne année. On va
Merci
vous écouter.
Beaucoup,
Salut. Bye.
Au plaisir. Bye-bye.